Avec moi, au bout du fil, Erika Tremblay-Roy, qui est autrice et co-metteur en scène de la pièce « Va falloir toujours, toujours ». Le spectacle est présenté à la caserne Scène Jeune Public jusqu'au 19 avril. Bonsoir, Erika.
Bonsoir.
Erika, comment ça se passe depuis votre arrivée à Québec? Comment le public réagit au spectacle?
Ah, ben ça se passe super bien. C'est vraiment un privilège d'être là à cette première saison, cette saison d'ouverture-là de la caserne. Oui. Donc, on a eu 3 scolaires cette semaine. Les enfants étaient hyper fins, attentifs, rieurs, vraiment généreux. Puis, c'est très agréable de jouer pour eux. Puis, en fin de semaine, on a eu une super tout public. C'est notre première tout public. Là. Puis, je pense que ce spectacle-là, tout particulièrement, les familles s'y retrouvent beaucoup. Donc, je trouve qu'ils trouvent encore plus sa saveur en familiale. Je pense que ça a été un beau moment partagé pour le public et les artistes en fait semaine.
Absolument. Puis c'est pas la première fois que la parenthèse de Christophe Garcia et que le Petit Théâtre de Sherbrooke collaborent, co-créent un spectacle. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous unir à nouveau pour une création?
Ah, tu sais, le plaisir, quand tu as du plaisir à travailler avec quelqu'un, tu as l'impression de trouver une vraie complicité, une justesse, une répartition des tâches. Tu sais, quand les équipes fonctionnent, ben à chaque fois qu'on finit un projet, on se dit « encore ». Donc, c'est à la fin de la création du problème avec le rose, qui est un spectacle qu'on a eu beaucoup de plaisir à créer, puis qu'on a joué plus de 350 fois à travers le monde. Mais déjà, à la fin du processus de création, on se disait « ça va nous en prendre un autre, hein, ça pourra pas être fini ». Mais on s'est dit « donnons le temps au problème avec le rose de vivre ». On savait pas qu'en plus, il allait avoir une pandémie. Donc, c'est 7 ans plus tard qu'on a créé « Va falloir toujours, toujours ». Mais on savait qu'on voulait pas que les deux spectacles se compétitionnent, disons. Là, on voulait que le problème avec le rose ait le temps d'avoir sa vie puis de faire de belles tournées. Donc, on a pris notre temps pour celui-là. Puis, ça nous a permis aussi de chercher comment renouveler notre façon de coécrire entre la danse puis le théâtre. C'était comme si c'était notre troisième, mais il y avait le défi de pas se répéter. C'est-à-dire qu'on a voulu fouiller d'autres façons de coécrire, de chercher ensemble. Puis, je pense que ça donne en effet un résultat dans la lignée, mais avec une autre teinte que nos collaborations précédentes.
Oui, puis je l'ai mentionné en début d'entrevue, tu es l'autrice du texte. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter avec ce spectacle-ci? Quelle thématique avais-tu envie d'explorer?
L'histoire des thématiques, c'est toujours quelque chose qui émerge à deux. Donc, même si c'est moi qui porte les mots, Christophe aussi se prononce, en fait, sur ce qu'il a envie de raconter, parce qu'il raconte tout autant que le texte avec la danse. Donc, c'est venu de lui, en fait, à un moment donné, il m'est arrivé avec « J'aurais envie qu'on parle des petits et grands ratés des familles ». On dirait qu'il n'est pas parent, Christophe. Moi, je suis maman d'une petite fille, mais on dirait qu'il était très touché par les parents autour de lui, qui avaient l'impression que même des fois, malgré leurs plus beaux efforts, ils ont l'impression d'être inadéquats, de rater, d'oublier la clarinette le jour du concert de l'enfant, d'arriver en retard au cours de danse. Donc, tous ces petits chaos-là, puis les plus grands aussi, des fois, les erreurs que les parents peuvent faire qui ont une influence sur la vie des enfants. Il m'est arrivé avec cette envie-là. Puis moi, je me suis dit, ça me touche, ça m'intéresse. Et puis comment cette idée-là de l'échec résonne chez les enfants? Parce que, on n'a pas envie de s'adresser seulement aux parents, bien sûr. Mm-hmm. On parle à tout le monde dans la salle, notamment aux enfants. Et comment ils vivent ça, cette question-là, peut-être du sentiment de stress de performance, de la pression de toujours faire les bons choix, de toujours gérer leurs émotions. Quelle pression on leur met comme parents? Donc, on a fait différentes étapes de recherche auprès d'enfants et de parents en France et au Québec pour voir un peu comment, de part et d'autre, cette question-là de l'échec, en fait, au quotidien, pouvait se vivre. Pour finalement se rendre compte qu'on était tous assez égaux devant peu importe l'âge, on veut bien faire et on rate. Les deux. Fait que ça, on a trouvé là une belle matière à mettre en relation pour finalement célébrer cette histoire-là, de se dire, on fait tous de notre mieux, puis c'est le bordel. Puis la maison finit toujours en bordel. Puis des fois, on crie, puis des fois, on perd patience alors qu'on n'aurait pas voulu. Puis des fois, on n'écoute pas la consigne. Mais à la fin de la journée, c'est ça, vivre ensemble. Là. C'est aussi d'accueillir les autres dans leurs erreurs, puis d'arriver à avancer comme ça.
Oui, puis tout à l'heure, tu parlais du fait que c'était votre troisième spectacle, vous aviez pas envie de vous répéter, de refaire les choses peut-être de la même façon. Comment avez-vous travaillé au niveau de la création sur ce spectacle-là pour faire en sorte que ce soit différent et de ne pas vous répéter?
C'est une bonne question. Dans nos deux premières créations, on se disait, on a toujours eu des distributions mixtes, hein, à la fois autant la compagnie de Christophe, c'est une compagnie française, donc autant une distribution mixte France-Québec, mais aussi danse-théâtre. Donc, les gens que Christophe amenait dans la création, les interprètes, étaient toujours plutôt des danseurs et de mon côté, plutôt des comédiens, mais on les traitait toujours de façon égale. Donc, on faisait, par exemple, dans Le problème avec le rose, un quatuor où tout le monde dansait et jouait également. La partie était vraiment répartie de façon très équitable. Puis tout le monde s'amenait dans la zone de l'autre, puis les danseurs étaient amenés à jouer, puis les acteurs à danser. Et Christophe et moi, on écrivait donc une partition qui pouvait être portée par les deux côtés. Donc, je mettais pas des morceaux de texte effroyables que les danseurs auraient été terrifiés de jouer. Puis Christophe écrivait une partition dansée qui peut être portée aussi par des comédiens qui bougeaient bien, qui dansaient. Puis là, on s'est dit, tiens, et si on allait chercher vraiment des danseurs et des comédiens sans se soucier de est-ce qu'ils jouent si bien que ça, mais en tout cas, en permettant à l'un et à l'autre, donc l'autrice et le chorégraphe, de pousser leur médium, d'écrire des partitions dansées exigeantes, des partitions jouées exigeantes, un personnage de composition, par exemple, qu'on n'avait jamais fait. Puis voyons voir comment cet entrechoquement-là influence l'écriture du texte, de la danse, puis tout ça. Bon, là, on s'est fait un peu prendre à notre piège parce que les danseurs qu'on a dans le spectacle jouent formidablement bien. Même si, je peux te demander, des fois, c'est pas les meilleurs qu'on a eus. Jonathan, entre autres, Jonathan Sanchez, qui interprète le rôle de Jonathan, c'est la première fois qu'il parle au théâtre, sur scène, puis je veux dire, il est d'une justesse, d'un drôle, tu sais, il est vraiment surprenant. Et puis, c'est la même chose, nos deux interprètes, les gens ont de la misère à distinguer là, qui danse, qui... Mais c'est pas grave, nous, on s'est donné des permissions dans l'écriture. Oui. Puis même que c'est resté, les deux personnages de Nina et Jonathan entrent en scène en se vautrant de la cape de « je suis un danseur professionnel ». Puis il y a même un moment dans le spectacle où danseurs professionnels et acteurs professionnels s'opposent en se disant « attends un petit peu, moi, je suis capable de faire ça, moi aussi ». C'est avec cette clin d'œil-là à la recherche, c'est rendu même jusque dans la partition finale.
Oui. Puis là, c'est sûr que Christophe est pas avec nous pour nous parler nécessairement de sa partition, mais comment décrirais-tu peut-être le style de danse, le style de mouvement qui est présent dans le spectacle?
Ben, j'aurais envie de te dire deux choses. J'espère que je vais bien le raconter. Je sais que Christophe a eu envie de faire différentes citations à des, comme Nina et Jonathan sont des danseurs professionnels, puis qui viennent là, en se disant, on est capable de tout faire, on est des danseurs. Ben, Christophe s'est inspiré de vocabulaire de différents chorégraphes connus, de différents courants de chorégraphie, et a fait différentes citations à différents moments dans le spectacle. Donc, on peut reconnaître des styles, comme si les danseurs s'en emparaient, bien sûr, tout ça dans la, adapté à la Christophe Garcia. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, dans notre travail de coécriture, il y a certaines choses qui sont que le texte précède. Donc, le texte arrive, puis Christophe cherche comment les mettre en mouvement. Mais il y a aussi beaucoup l'inverse. Il y a des choses qu'on explore encore, puis qui, moi, m'inspirent des jeux de scène et des moments dans l'écriture. Et Christophe a beaucoup cherché comment faire rater par le corps. Donc, rater par trop d'envie de performer, raté par trop de lâcheté, raté par trop de maladresse. Donc, cette qualité-là de mouvement, donc comment rater en mouvement, ça a beaucoup teinté aussi sa recherche chorégraphique. Parce que lui, il avait envie, je pense, avec ce spectacle-là, d'explorer d'autres zones. Puis moi, je trouve qu'il a réussi. Je le reconnais, mais en même temps, je la trouve surprenante, sa chorégraphie dans ce spectacle-là.
Oui, puis au niveau scénique, qu'est-ce qui nous attend au niveau du décor, au niveau des éclairages, au niveau aussi musical pour ce spectacle?
Ouais, ben des fois on dit que c'est un spectacle pop parce qu'il y a quelque chose de très coloré. Donc sur la scène, quand le public arrive, je pense rien dévoiler hein, parce que c'est ce qui nous attend là, dans l'entrée en salle. On découvre un univers scénique un peu abîmé. Une grande chaise, il y a l'air d'une chaise de sauveteur ou d'arbitre. On verra que c'est un peu des deux, mais qui ressemble aussi à un arbre à chat envahi par la végétation. Un rideau tout pris dans l'humidité, un fauteuil déchiré. Les plus observateurs, ils reconnaîtront peut-être des coups de griffes, puis la mousse du divan qui s'est un peu vidée. Un sapin de Noël qui a été renversé là, et puis qui est suspendu par le pied, qui pend au plafond. Donc, on sent que c'est passé des choses. L'univers est un peu perturbé. On va découvrir, on pourra faire des liens, voir pourquoi. Puis ensuite, c'est la même chose au niveau des costumes, il y a quelque chose de très très vif, très coloré, un peu comme si c'était des uniformes, parce que bon, ce à quoi on convie le public et les interprètes d'ailleurs, c'est le grand jeu de la famille. Donc, il y a quelque chose de comme dans certains jeux, il y a quelque chose d'assez franc au niveau du visuel qu'on retrouve dans la lumière. Puis ben la musique, Christophe et moi, on avait envie qu'à différents moments dans le spectacle, on ait presque l'impression qu'on a pesé play sur une toune. Bien sûr, c'est toute de la musique originale, mais ça fonctionne. La compositrice Ariane Bisson-McLernan, elle a vraiment réussi à créer des bonnes tounes dans le show, avec où elle chante aussi dessus. Puis c'est vraiment pas rare à la fin du spectacle que les gens nous demandent c'est quoi la musique, comme si c'était des tounes qui existaient et qu'ils voudraient réentendre, mais c'est vraiment de la musique originale du spectacle. Donc il y a quelque chose d'assez, plus qu'assez, de très dynamique, rythmé, enlevant dans le spectacle, parce que les personnages avancent à travers une série de niveaux, d'épreuves, dans ce grand jeu de la famille-là.
Puis bien que notre entrevue, je pense, a pu peut-être éclairer les auditeurs, auditrices, je me dis peut-être que certaines personnes qui sont habituées d'aller au théâtre avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec des enfants de leur entourage, sont peut-être plus à l'aise avec le théâtre. S'ils sont intimidés par le fait qu'il y a la rencontre entre la danse et le théâtre, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce qui accroche les enfants dans le fait d'être devant ces deux disciplines qui s'entremêlent?
C'est une super bonne question. C'est une belle façon d'entrer dans l'univers de la danse, parce que là, on est au théâtre, il y a une histoire. Des fois, ça peut être déroutant de dire est-ce que certaines personnes qui découvrent la danse contemporaine ont un peu l'impression de se dire est-ce que j'ai compris quelque chose? Est-ce qu'il fallait que je comprenne quelque chose? Bon, dans le code, il va falloir toujours, on est aussi au théâtre, donc il y a des personnages, il y a une histoire. On peut s'y repérer. Ce que la danse donne, c'est du rythme, du mouvement, une autre couche d'émotion, plus instinctive, plus visuelle, sensorielle. Donc, je pense que ça fait un spectacle où, dépendamment de quel type de spectateuriste on est, on a beaucoup de chance de s'y retrouver, parce que si on est plutôt, on aime la musique, on aime quand ça bouge, ben il y a de ça c'est sur musique, ça bouge presque tout le long. Si on a plutôt envie de se faire raconter une histoire, il y a ça aussi. On peut se faire raconter une histoire dans ce spectacle-là. Donc, je pense que c'est un spectacle, de tous les spectacles qu'on a fait, je dirais que c'est celui qui est le plus accessible. Il y a quelque chose d'assez, une invitation assez invitante, c'est un peu bizarre à dire, mais quelque chose d'assez invitant dans la proposition. On entre quand même, on est assez bien accompagné comme spectateuriste à travers le spectacle.
Oui. Puis, on en a parlé plus tôt, le problème avec le rose a quand même connu un grand succès, a tourné. Qu'est-ce qui attend ce spectacle-ci?
De bien belles choses. D'abord, d'être à la caserne pendant deux magnifiques semaines. Déjà, ensuite, on s'en va au Centre national des arts à Ottawa à la fin mai. Et puis, l'étape d'après, c'est Avignon. Donc, on est au Festival d'Avignon tout l'été, dans le magnifique Totem, qui est une des très belles scènes jeune public à Avignon. Donc, on va avoir la chance d'y être là pour 15 représentations. C'est un rendez-vous incontournable pour le public, mais aussi pour les professionnels. Donc, ça risque de donner des belles suites, notamment en Europe et en France. La saison prochaine, elle est bien pleine. Donc, c'est pas pour la saison prochaine, parce que ça, c'est déjà tout plein. On tourne en France et largement au Québec. Et puis, donc avec ces différents points de chute-là là, sur la saison prochaine, ça laisse présager un beau 3-4 saisons de tournée encore.
Et de ton côté, Erika, est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'animent présentement?
Oui. Le public de Québec se souviendra peut-être, certains d'entre vous, du spectacle potager qu'on a présenté au Gros Bec, c'était pas encore la caserne, il y a quelques saisons déjà. C'est un spectacle que j'ai co-créé avec Karine Sauvé, puis on remet ça. C'est un concert rock pour les tout-petits. Et puis, on a envie de créer un second concert qui va s'appeler celui-ci « Animal ». Plus sauvage, plus indompté, un band avec une bass aussi cette fois-là, donc puis encore les musiciens au cœur, mais cette fois-ci parmi les enfants. Fait que je pense que ça va encore rocker. les petites bêtes vont rocker avec nous bientôt. Alors, ça va sortir au printemps prochain, en juin 2027.
C'est à surveiller, à suivre. Mais merci beaucoup, Erika.
Merci à toi.
Puis il reste une semaine pour découvrir. Va falloir toujours à Québec, à la caserne. C'est à ne pas manquer.